beaucoup. Éric Duchemin, directeur de la publication des éditions Vertigo, directeur scientifique Drex. C'est quoi Drex? Il faudra expliquer. Environnement à l'Université du Québec à Montréal, qui va nous parler d'agriculture urbaine à Montréal, du sol vers les hauteurs. Et lui aussi, il a 10 minutes. Mais quand je dis 10 minutes, tout le monde prend 15 minutes. Donc, ça ne va pas aller.
Donc, 8 minutes,
ça serait super. Merci, Éric Duchemin. On verra si vous tenez votre parole. Parce que tout le monde dit ça, mais après,
ça va être dur.
C'est une chose de le dire, c'est autre chose de le faire. Et Magic Alena, toujours là pour envoyer le PowerPoint. Merci Alena.
Oui, merci. Donc, je suis professeur associé à l'Institut des sciences de l'environnement. J'ai plusieurs chapeaux, comme beaucoup de personnes, et membre du collectif de recherche en aménagement paysager et agriculture urbaine durable. Donc, un collectif de recherche qui s'occupe d'agriculture urbaine depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, je vais faire une présentation. On va se baser sur Montréal, sur le cas de Montréal, l'agriculture urbaine, mais je pense que c'est un peu la réalité un peu partout à travers le monde actuellement. L'agriculture urbaine passe du sol et monte tranquillement vers les hauteurs et passe au balcon. Et là, on est rendu au toit. On voit ça à Paris, on voit ça à New York, à Chicago. Les nouveaux projets qui existent en agriculture urbaine sont presque tous sur les toits, ce qui est une grosse opportunité qui amène des nouveaux acteurs, mais qui apporte aussi des défis. Donc, c'est un peu le propos de ma présentation en prenant le cas de Montréal. Alors, le collectif de recherche fait de la recherche, de la formation, on a une école d'été et de l'intervention. Notre recherche est multi-discipline, on regarde les différents impacts que peut avoir ou les enjeux qui entourent l'agriculture urbaine dans différentes disciplines, l'éducation, l'environnement, l'aménagement urbain, etc. Vous avez à peu près ici notre rosette de pensée au niveau de la recherche, lorsqu'on développe les recherches. Donc, on touche à peu près aux différents niveaux. Aujourd'hui, je vais surtout me pencher sur la question de l'espace, de la gestion de l'espace, de l'aménagement urbain et pas des autres facettes. Montréal et plusieurs villes, on oublie toujours que les villes ont toujours été agricoles. Montréal a une longue tradition d'agriculture urbaine, donc de l'agriculture en plein cœur de la ville. Nous avons ici une photo dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, qui est un quartier central de Montréal, en 1940. Donc, on voit ici, en haut, c'est un poste d'énergie, donc de transformation d'énergie électrique. Et juste à côté, vous avez en bas un beau potager. Donc, en 1940, c'est après le crash boursier. Donc, il y avait, en plein cœur de la ville, des gens qui faisaient pousser des potagers. C'est un peu l'idée du jardin ouvrier qui existe en Europe. Là, c'est un peu plus petite parcelle et c'était des parcelles cultivées collectivement par beaucoup de citoyens de ce quartier. Un autre exemple, c'est la falaise Saint-Jacques. Donc, c'est une falaise qui est actuellement protégée pour la biodiversité à Montréal. Et en 1948, on a le quartier en haut, qui était un quartier qui recevait beaucoup des nouveaux immigrants portugais, italiens, et qui avait une tradition de faire l'agriculture. Et ce qu'ils ont tout simplement fait, ils ont été à la falaise, ils ont fait des petits sentiers, ils sont descendus en bas. Et là, on voit juste ici les parcelles agricoles qui se sont appropriées. Donc ça, c'est un peu l'agriculture urbaine qui existe, qui s'est développée à Montréal, sur les sols, on s'est accaparé des espaces. Dès qu'un espace de vide, les gens s'accaparaient et faisaient l'agriculture. C'était assez généralisé. On a beaucoup de photos comme ça, historiques, qui démontrent que ça existait. Il faut dire qu'il y avait des vergers dans plein cœur de Montréal jusqu'à la fin du 19e. Ce qui est arrivé beaucoup plus tard, dans les années 70, c'est les jardins communautaires. Donc, un très grand développement d'un réseau de jardins communautaires. Donc, il y a 95 jardins qui représentent 7800 jardinets d'approximativement 16 mètres carrés qui sont répartis sur l'ensemble du territoire de la ville. On parle encore des choses qui sont dans les sols. On est dans l'espace. La ville a offert des parcelles à ses citoyens. Ça représente pas loin de 22 hectares. 22 hectares qui ne sont pas développés au niveau foncier. Il n'y a pas de bâtiment dessus. Donc, imaginez, c'est un choix quand même assez important pour une ville qui résiste encore au développement, mais on se rend compte que tranquillement, il y a des jardinets, des jardins qui disparaissent peu, mais quelques-uns, un à deux par année. Donc, dans 90 ans, il n'y en aura plus si on continue comme ça, mais qui sont redéveloppés parce qu'il y a vraiment des besoins de logement. On parlait juste avant, la conférencière juste avant moi qui parlait de besoins de logement, c'est vrai aussi à Montréal, besoin de logements sociaux au centre-ville. Donc, souvent, sont construits sur ces parcelles-là. Il y a aussi tout ce qui existe, c'est on oublie toujours les jardins individuels. C'est un peu partout, les gens ont des jardins, ont des petites parcelles qu'ils gèrent. À Montréal, dans le Grand Montréal, c'est 38 % des citoyens qui disent pratiquer l'agriculture urbaine. Et lorsqu'on dit pratiquer l'agriculture urbaine, ça veut dire qu'ils font pousser des plantes maraîchères ou des petits fruits dans leur cour arrière. Et même ces pourcentages-là sont plus élevés pour les familles à plus haut revenu, parce que c'est les familles en général qui sont propriétaires. Donc, ils ont accès au terrain. Donc, ils vont faire un jardin, maraîcher, une production maraîchère. Mais là, on parle toujours d'une gestion d'espace. Hein. On gère l'agriculture urbaine jusqu'à voici à peu près 5 ans était gérée vraiment dans une question de l'espace du sol. Lorsqu'on parlait aux promoteurs de projets d'agriculture urbaine, aux citoyens, ils disaient, moi, ce qu'il me faut, c'est un espace. Il me faut de l'espace. Il me faut du sol. Voici encore 5 ans, les groupes disaient, le problème, je ne peux pas faire mon jardin parce que je n'ai pas de sol. Je n'ai pas un espace. Mais ceci change beaucoup si on arrête de penser uniquement en espace, mais on pense espace au sol, mais on pense aussi en d'autres formes d'organisation. Parce que les majorités des groupes communautaires ou des citoyens ne vont pas sur les toits parce que souvent, ils n'ont pas accès aux toits. Et ce qu'on va voir à Montréal, c'est que les projets qui sont sur les toits actuellement, ce ne sont pas des projets citoyens. En général, c'est des projets institutionnels. C'est des projets de promoteurs privés. Donc, on va faire voir seulement quelques exemples. Je ne peux pas tous les montrer. On a 10 minutes et déjà, mon temps il passe tranquillement.
Non, il en reste 4, là.
Il en reste 4. Donc, on va voir.
On partait de 8, hein, Éric. Ouais. Hein, on partait de 8. Hein,
on partait de 8, OK. Donc, je peux me rajouter 2. Donc, ce qui s'est passé dans les dernières années, c'est vraiment un mouvement social qui s'est mis en place sur l'agriculture urbaine. Comme je le disais avant, ce n'est pas typique à Montréal, mais vraiment à Montréal, il y a vraiment une grosse mobilisation citoyenne, mais citoyenne et aussi de groupes communautaires et aussi de groupes économiques, de promoteurs de l'agriculture urbaine qui veulent en vivre et qui veulent développer des projets économiques. L'ensemble des acteurs se sont joints pour demander une consultation publique à Montréal et donc il fallait 15 000 signatures. Pour pouvoir déclencher une consultation publique, afin que Montréal soit obligé de déclencher une consultation publique, et c'est 30 000 signatures qui ont été obtenues. Donc, on voit vraiment qu'il y a un mouvement social, et ce mouvement social-là demande des choses très variées. Et ça se dénote dans la variété des projets qui se développent à Montréal depuis quelques années. Donc, pour nous donner une idée des différents projets qui se développent à Montréal, on a créé une base de données où les citoyens et les groupes peuvent inscrire leurs projets. Donc, ça s'appelle agriculturemontréal.com, où là, on voit les différents formats d'agriculture urbaine. Donc, il y a les jardins, bien entendu, institutionnels des universités. Hein, parce que les 4 universités à Montréal ont de l'agriculture urbaine sur leur campus. Autres institutionnels, ça peut être des ministères, ça peut être la Ville de Montréal. Il y a des jardins d'entreprise, donc c'est vraiment là, c'est des restaurants, des hôtels qui partent leur propre jardin. Ou encore, il y a un exemple à Montréal, c'est une compagnie de chaussures qui a parti des jardins pour ses employés, pour que ses employés aillent se détendre durant la journée. Et donc, ils ont créé un jardin d'entreprise qui est offert uniquement à leurs employés, mais c'était d'eux-mêmes, bien entendu. Après ça, ils font du marketing là-dessus pour montrer qu'ils ont une bonne conscience bien que sens verte, mais je pense que c'est vraiment une idée qui a été reprise. Jardin individuel, on a parlé. Jardin collectif, qui est une forme d'organisation d'agriculture urbaine. Les jardins communautaires, il reste toujours quelques producteurs. Il y a même 2 producteurs qui sont en plein cœur de la ville. Donc, on n'a pas que des producteurs en périurbain. Et bien entendu, vous connaissez bien à Paris, les ruchers. On a un développement depuis 2 ans de ruchers urbains à Montréal. Alors, ce que ça donne comme projet, et ces projets-là nous amènent des réflexions, parce que je pense que ces projets-là qui sont forts, sont porteurs, amènent des grands questionnements sur les défis à relever derrière ça, parce que je ne suis pas sûr que tous les défis sont relevés. On en relève certains, mais on en crée aussi des nouveaux. Un toit vert intensif en plein cœur de la ville, Centropole Roulant, un organisme popote roulante, ils ont carrément créé un toit vert productif, donc ils ont mis du sol sur leur toit. C'est quand même 16 pouces de sol. Là, il y a Antoine qui est ici dans la salle qui a fait le toit, donc je me suis dit une bêtise au niveau de l'épaisseur. Donc, c'est vraiment en sol. Donc là, vraiment un sol agricole sur un toit. Et toute la production sert à leur cuisine collective. Ils ont aussi développé, c'est ce qui s'en vient depuis quelques années, ils développent des liens avec des agriculteurs périurbains où ils vont eux-mêmes faire de l'agriculture en périurbain pour compenser les besoins qu'ils ne réussissent pas à subvenir avec leur jardin. Ce qui fait un échange de partage de connaissances parce que ce qu'on remarque aussi, c'est qu'en ville, on réussit à produire intensivement une très forte production, très haut taux de production par mètre carré par rapport à ce qui peut se faire en périurbain. Donc, il y a des échanges. Il y a des connaissances en périurbain, donc en plus agriculture conventionnelle, mais il y a des connaissances qui se sont acquises actuellement en milieu urbain, qui sont retransmises aux agriculteurs en périurbain. Et eux-mêmes commencent à se dire, pourquoi j'ai un tracteur? Je suis capable de faire de l'agriculture sans mon tracteur, sur plus petite superficie, et je vais en vivre mieux. Il y a un cas au Québec, un agriculteur qui cultive 0,8 hectares sans tracteur et il fait vivre sa famille sur ces 0,8 hectares-là. Il y a un très haut taux de production, par exemple, par rapport aux autres agriculteurs parce que tout son terrain est planté et il n'y a pas de tracteur. Donc, il n'y a pas besoin de faire tourner son tracteur, etc. Autre exemple, sur le toit du Palais des Congrès. Donc là, on a un immense toit. Sur lesquels il y a des bacs qui ont commencé à être mis. Donc, on a amené des bacs avec de la terre, des bacs ou des sacs sur lesquels on a déposé et on a commencé à faire de l'agriculture sur ce toit-là. On est rendu actuellement à 600 bacs. Donc, c'est quand même un très gros projet doit être déplacé en partie puisque à Montréal, il y a de la neige l'hiver. Donc, la charge portante n'est pas suffisante pour porter les bacs et la neige dans l'hiver. Donc, ils doivent déplacer les bacs lorsque l'hiver arrive. Et c'est pour ça que tout a été mis en bac, parce que faire un toit vert aurait été impossible, vu la structure du toit. Donc, ils ont trouvé un juste milieu entre les deux. Un autre exemple qui est très, très intéressant au niveau du regard du système alimentaire, de l'apport de l'agriculture urbaine dans le système alimentaire local, c'est les fermes Loufa, qui ont été mentionnées juste avant, qui vont être rementionnées après, parce que c'est vraiment un projet phare, qui est 30 000 pieds carrés, de serre sur un toit, donc il pose des questions d'usage, hein, un toit 30 000 pieds carrés. Ah oui, qui est transfert, oui, c'est, oui, ok, ah oui, c'est 2 700 mètres carrés, désolé. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de... Oui, un pouce, c'est 2,2 cm. 2,2. Et ce genre de projet-là, très intéressant, une grosse production économique, et ce qui arrive avec ce genre de projet-là en ville, très bonne production, c'est 500 à 700 kilos par semaine de légumes, ils doivent faire la vente directe. Ils sont incapables de rentrer dans le système agroalimentaire et vendre dans un marché parce qu'ils ne pourraient pas survivre. Ils ne seraient pas rentables. Déjà, je ne suis pas sûr qu'il est rentable actuellement. Il y a des nouveaux développements qui vont permettre de rentabiliser, mais actuellement, il doit rentrer juste dans ses frais. Il faut qu'il fasse la vente directe. Donc, ça soulève tout un questionnement sur le système qui existe. Et il travaille aussi avec des agriculteurs locaux à l'extérieur, ce qui soulève un autre questionnement sur quel est l'échange de risque et de profit sur les légumes vendus. Puisqu'une ferme en serre comme ça, ce qu'ils ne peuvent pas produire, c'est tout ce qui est racine. Carottes, patates, navets... et c'est tous des légumes qui n'ont presque pas de valeur pour un agriculteur bio. Tout ce qu'eux réussissent à produire, c'est les poivrons, les tomates, les concombres, les aubergines, les salades, ce qui a beaucoup de valeur. Donc là, il y a un questionnement à avoir dans ce genre de projet-là. Là, c'est un petit projet, mais si on commence à avoir plusieurs projets comme ça, quel va être le lien avec les producteurs? Est-ce que les producteurs vont devenir de plus en plus pauvres, déjà qu'ils ne vivent pas bien parce qu'ils ne vont vendre que des légumes à faible revenu, à faible valeur ajoutée? Des questions. Mais ce qui est très intéressant avec ce projet-là, c'est les technologies, puisque pour faire fonctionner ces serres-là, c'est entre 5 et 6 personnes que ça prend. Donc, on peut, en mettant en place des technologies innovantes, on peut réussir à faire fonctionner des grands projets comme ça.
Et ce sera le mot de la fin, non?
C'est presque le mot de la fin. Il me reste deux, je pense. L'autre chose, on va passer vite, c'est les ruchers. Vous connaissez bien. Il y a actuellement 17 ruchers, 103 ruches, qui posent des questions d'organisation parce que des ruches, il y en a trop au même endroit. Ça peut poser des questions de la biodiversité, des pollinisateurs indigènes, de la sécurité. Pour Montréal, tout du moins, il y a des questions, les gens se posent des questions de sécurité. Je sais qu'on a beau leur dire qu'à Paris, il y a des ruchers dans des parcs, les gens peuvent les voir, puis ils passent à côté. Puis, mais bon, à Montréal, il y a une grosse questionnement sur on ne peut pas être à 2 mètres d'une ruche, c'est trop dangereux. Les abeilles sont méchantes par définition. Alors, ce qui nous arrive, c'est la dernière à cette étape, c'est le truc, c'est la conclusion. Donc, ça me laisse 2 minutes.
Il reste plus de minutes depuis 3 minutes, mais...
Les défis à relever, bien entendu, c'est au niveau de l'espace, si on passe sur les toits, même si on n'est pas sur le toit, c'est l'urbanisme. Les urbanistes, la structure de nos villes, l'orientation de nos rues ne sont pas conçues pour l'agriculture urbaine, ne sont même pas conçues pour l'efficacité énergétique. Il faudrait tout tourner nos rues pour réussir à avoir le plus d'ensoleillement. C'est vrai aussi pour l'agriculture urbaine. La réglementation aussi n'est souvent pas adéquate. Il n'y a aucune réglementation pour obliger les toits verts. Un des gros défis de passer sur le toit, déjà que nous avions ce défi-là au niveau de l'agriculture urbaine en sol, c'est des compétences. La majorité des porteurs de projets en agriculture urbaine manquent de compétences pour faire de l'agriculture urbaine. Au niveau technologique, au niveau agronomique, au niveau de gestion de projet. Et lorsqu'on passe sur des toits, on vient d'augmenter la difficulté. Je ne sais pas si vous faites de la culture sur des toits en bac, je peux vous dire que si vous oubliez vos plantes une journée, ils vont tous mourir. Ça peut demander 8 litres d'eau par jour. Donc, il y a des gros défis d'apprentissage et de connaissances. Et toute la question aussi de la gestion du sol, parce que le sol, bien entendu, c'est un sol qui va s'épuiser rapidement parce qu'il est en milieu clos. Au niveau de la technologie et de l'innovation, on revient, c'est l'eau. L'eau qui est utilisée dans les projets sur les toits, elle provient d'où? Elle provient du robinet. On n'a aucun moyen de récupération actuellement des eaux de pluie sur les bâtiments qui peuvent être utilisées sur un projet qui est sur un bâtiment. En général, l'eau, si elle est récupérée, à Montréal, ce n'est pas le cas, mais si elle serait récupérée, elle se ramasse en bas. Donc, il faudrait faire remonter 3, 4, 5, 6 étages. Au niveau le sol, ce sol-là, bien entendu, provient en général, c'est des sacs achetés ou c'est du sol qui provient des zones agricoles. Donc, il faudrait que les villes réussissent à produire leur propre sol. Je sais qu'il y a un projet ici à AgroParisTech qui veut créer du sol à partir des déchets de la ville. Et au niveau, après ça, c'est le système alimentaire. C'est comment réussir à inclure de tels projets dans un système alimentaire et que ce soit des projets économiques, autant pour la ferme Loufa ou aussi pour les petits projets. Ce matin, c'est juste avant moi, je ne me rappelle plus quand, mais on parlait vraiment de le fait que tout est centralisé. Ils réussissent à faire des petits projets, c'est difficile parce qu'on réfléchit toujours à très grande échelle. Et là, dans ce système-là, il faut réussir à fonctionner à petits projets et réussir à comment mailler ces différents projets-là.
Merci Éric Duchemin pour cette présentation.